Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée et la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné avec vous, votre animateur, et je suis accompagné par deux gars. Eux autres là, Daniel Carosella.
Bonjour Jean-Benoît.
Et Luc Desormeaux.
Salut.
Oui, c'est ça, les deux gars. J'ai décidé que non, pas de flafla cette semaine, on ne fait pas de présentation grandiose, vous le méritez pas.
Correct, d'accord avec ça.
C'est ça ou c'est la fin 2013 qui commence à te rentrer dans le corps?
Ah, peut-être. On a vu la fin de l'émission de la semaine dernière. On est rendu là.
C'est ça. Tu te prépares pour la facture des fêtes.
Vivement les vacances.
Oui, oh oui.
Encore une fois cette semaine, plein de tout, plein de beaux sujets, de patentes bien intéressantes. Entre autres, nouvelle chronique cette semaine. Daniel va y aller avec ses fails. Un par émission, on va essayer de faire ça assez régulièrement. Des trucs qui ont marqué la semaine côté actualité et duquel on va pouvoir rire. Donc, cette semaine, Daniel a un beau fail, un tata éventuellement qui va se faire pincer avec l'achat d'une console un peu particulière.
Ouais, en fait, écoute, je prends mes notes parce que oui, j'ai pris des notes pour ça. C'est le magasin Horads à Londres, donc un magasin que je connais pas pantoute parce que c'est un magasin qui est destiné à une clientèle huppée, donc pas pour moi, ni pour toi, ni pour Luc. Donc, tu sais, nous.
On rentre pas là-dedans, certain.
Non, en effet. Fait que, écoute, c'est un magasin où tu vas retrouver des objets de luxe. Et là, ils se sont dit, c'est pas la première fois qu'ils vendent une console, tu sais, à gros prix. Ils se sont dit, on va faire une Xbox One, donc qui est pas trouvable en magasin, mais elle, on va la faire à 24 carats. Donc, on va l'envelopper d'or à 24 carats. Et combien vaut-elle, cette magnifique Xbox One?
Une coupe de pièces.
$10
Ben, j'allais dire trop cher, là, mais...
ouais, ben, écoute, en livres sterling, je ne me rappelle pas du prix, mais en dollars canadiens, ça fait à peu près 10 000.
Bon. Ben, ça se rapproche du prix que certains magasins demandent pour une Xbox Day One.
Sur eBay, tu es capable d'en avoir pas plaqué or à ce prix-là, je suppose. Fait que, okay.
Ah ouais.
Finalement, c'est un deal.
Ouais, ouais, c'est ça.
Tant qu'à l'acheter ou se mettre l'acheter en or.
Mais en fait, c'est pas le magasin en tant que tel le problème. Parce qu'eux ont une clientèle, il y a quelqu'un qui va l'acheter, qui va tomber dans le panneau. Le problème, c'est le gars qui va l'acheter, qui va payer ben trop cher pour rien.
Ben exactement. Tu sais, dans le fond, que le magasin en vend une Xbox One.
Qui s'essaye, ça, il n'y a pas de trouble.
Ah non, tu sais, ça, j'ai pas vraiment de problème, en tout cas, façon de le dire, mais bon, ils ont le droit. Sauf que le tata qui va aller acheter une Xbox One à 10 000 $ on s'entend, là, la console va faire exactement la même affaire que celle qui se vend à 500. Mais bon, tu vas pouvoir te vanter d'en avoir une à 24 carats. Moi, je te conseille très fortement d'avoir un bon système d'alarme parce que ça risque d'être un objet...
Oui, sûrement.
Ben, tu sais, ça risque d'être la première affaire qui va partir chez vous si tu te fais défoncer. Mais c'est juste que je comprends pas. Je comprends juste pas pourquoi que t'achèterais une console à 10 000 $ qui va faire la même affaire qu'une à 500.
C'est pour le glam. Ben, en fait, c'est la technique Apple. Offrir le même produit avec les mêmes composantes, la même puissance, mais le double du prix. C'est la technique Apple.
Ouais.
C'est le glam qui vient avec.
Juste côté, c'est surchauffage.
C'est vrai, hein? L'or, c'est mou. Je suis pas sûr que ça respire si bien.
Ouais, non. C'est ça. Je passe la console. Normalement, tu fais une console en plastique, puis t'inquiète, puis c'est fait pour respirer, puis pour laisser échapper à la chaleur. C'est conçu comme ça. T'sais. Là, tu te ramasses avec une Xbox plaqué or, jusqu'à quel point?
Ouais. Tu peux pas la déplacer pendant que la console roule, elle est molle.
Ouais, d'un côté, tu vas-tu vraiment jouer avec? T'sais? C'est une bébelle à mettre dans un petit display en vitre.
Ouais, tu la mets dans une cloche en verre.
Vous check ma Xbox à 10 000 puis voir le monde sous la terre en avant de
ça,
toi.
C'est ça, c'est clair. Mais non, mais tu sais, je comprends juste pas. Là, mais au pire, gars, si elle surchauffe, ben, je sais pas, l'or coulera, puis ben, tu le revendras, puis tu seras riche.
Tu vas te faire une dent en or avec.
Ouais, c'est ça.
Ouais, peut-être.
Mais. Bref, pour moi, c'était mon tata de la semaine. Parce que, ben, en fait, futur tata, parce que la console n'est pas encore vendue. Donc, il n'y a pas un tata présent, mais il va en avoir un dans le futur. Donc, futur tata, tu es mon fail de la semaine.
On prend de l'avance, c'est toi.
Ben, moi, j'aurais peut-être un petit win.
Hey, vas-y, vas-y.
Mais ça, on n'en fera pas une habitude là, pour les wins. Là, parce que,
oh, c'est plate, le fun, les affaires positives. Là.
Ça se fait rare des fois. Là. Mais je veux faire un semi-win à Universal Studios qui va donner une partie des profits de la vente des DVD Blu-ray de Fast and Furious 6, le Rapide et Dangereux 6, à la fondation de Paul Walker. On sait que Paul Walker est mort dans un accident de voiture. Chose ironique, un gars qui fait des films de char avec des cascades de fou.
Ouais, qui s'appelle Marché aussi.
meurt dans un accident de voiture bébête un peu, parce qu'ils sont allés trop. Il n'était même pas le conducteur en plus, puis ouais. la personne conduisait juste trop vite sur un boulevard qui n'était pas conçu pour la vitesse-là. Là, mais bon. Mais bon, c'est quand même un win qu'ils vont donner une partie. Là, j'ai pas le chiffre de
ouais, le
une partie, c'est quoi,
ouais.
Si tu 0.5% ou 1%, là, mais, quand, ou 50%, mais en tout cas, à la fondation Paul Walker qui va pour aider les victimes du tsunami aux Philippines.
Hey, j'en ai un autre, un simili-win.
Mais là, arrête ça, là. Ça va 2-1, win contre fail. Là.
Ouais, c'est pas ça.
C'est trop positif.
Là, on va être pogné pour parler de Nintendo, sinon. Là. Oh, c'est pas correct.
Mais on va en parler, mais on sait pas si ça va être en bien ou en mal. C'est Dan qui va décider.
Luc, non, mais c'est parce que le win, c'est toi qui me l'as amené tantôt. Zombie Tycoon 2, qu'on avait eu l'un des développeurs avec nous en entrevue, demandait l'aide de la population d'aller voter pour eux pour être disponible sur Steam. Ben, c'est fait. Ils ont passé le processus Greenlight avec succès, sont rendus là-dessus. Donc, c'est toi qui as découvert ça. Fait que si ça vous tente, allez les encourager encore en achetant leur jeu. C'est la gang de Frima à Québec qui a développé ce titre-là et ils avaient eu la gentillesse de venir nous en parler. Donc, on les salue et un beau bravo pour cette grande réussite.
Ouais, 9,99 sur Steam, puis je regarde les cotes, bon, les cotes publiées sur Steam. Là. 8,3 sur 10, 8,7 sur 10, puis 9 sur 10.
Ah non, c'est ça, exactement.
C'est quand même pas super. Tu sais?
C'est le genre d'impression qu'on avait eu aussi là, au moment de le concept du jeu fonctionne bien. Là. Faut se le dire.
C'est ça. C'est ça. Fait que ça vous tente, amusez-vous.
Sinon, différentes chroniques cette semaine. On revient là, dans notre patelin plus habituel, là, dans nos standards. Luc, tu vas nous parler de films d'animation cette semaine.
Ouais, je vais vous parler du film que j'ai pas eu le temps de parler la semaine passée, qui est Iron Man et Hulk, des super-héros s'unissent.
Daniel va nous parler d'un Zelda sur console mobile.
Ben oui, écoute, quelle belle façon de finir 2013 avec ce qui est pour moi mon jeu de l'année.
Oh ouais, à ce point-là.
Tu vends le punch, là.
Ouais, c'est ça.
T'as tellement pas le sens du suspense.
Ah, excusez, c'était ironique. Dans le fond, c'est vraiment poche.
Ça mérite un 1.
C'est ça.
Et moi, je vais vous parler de The Last of Us, exclusivité sur PlayStation 3. Ça aussi, un jeu vraiment ordinaire. C'est pas bon, là. En tout cas, je vous en parle dans les prochaines minutes, dans la réalité augmentée. En fait, c'est vraiment bon. Soyez là. Donc, on va y aller avec toi, Luc. Ton film cette semaine, Hulk et Iron Man. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ce film-là? C'est-tu bon?
Ben, c'est un des films qui subit une publicité un peu douteuse. Ce que j'avais déjà parlé quand vous écoutez Télétoons et on vous présente un film puis on vous dit « Chers parents! »
Hein,
oui. C'est comme... Parce qu'on n'a pas le droit de dire « Toi, le kid, entre 7 et 12 ans... »«
Vos enfants vont aimer ça! » »«
On sort un film pour toi! » Mais à la place, on dit « Hey, les parents, si vous voulez peut-être avoir une petite heure et quart de
oui,
paix,
c'est ça.
Ben, achetez ça, puis peut-être que ça va marcher. » Donc, Iron Man et Hulk, c'est les héros s'unissent. En anglais, c'est Iron
Heroes.
Man, Hulk, Heroes Unite. Heroes United, bon, c'est un film de Marvel Studios. On est dans l'univers des Avengers, même si dans ce film-là, ben, on voit seulement les deux héros qui sont dans le titre, Iron Man et Hulk. Bon, on retrouve au début du film Hulk qui se bat contre l'abomination, là, qui est son ennemi juré, c'est un combat de c'est qui le plus fort, là, c'est toujours ça, qui frappe le plus fort, qui est plus fort, qui va gagner. Et puis, l'Hydra se met dans les pattes des deux pendant leur combat, enlève l'abomination, l'amène dans une base secrète pour faire des expériences sur lui. Et puis Hulk, ben, tu sais, parce que les super-héros ont vraiment un problème profond, c'est que tu veux totalement détruire ton ennemi juré, mais si ton ennemi juré se fait enlever par un autre ennemi, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, il décide d'aller sauver l'abomination
ben oui.
des mains de l'Hydra. Tu sais, au lieu de juste laisser faire, puis bon, ben ça fait un de moins et tu fais une petite barre dans ton cahier en disant, ben, lui, je m'en suis occupé. Donc, va essayer de libérer l'abomination de l'Hydra. Et l'Hydra qui font des tests, bon, vont même s'approprier l'espèce de générateur d'énergie de Tony Stark parce que Iron Man vient à un moment donné pour l'aider. Et ça va créer une nouvelle créature qui est vraiment une boule d'énergie qui s'appelle Zax. Donc Zax, lui, va essayer d'aller chercher le générateur d'énergie qui appartient à Tony Stark, là, chez Stark, dans sa bâtisse, au Stark, le building de Tony Stark. Là. Parce qu'il a réussi à juste prendre un petit peu d'énergie de la poitrine de Tony Stark, puis il a réussi à devenir super fort. Donc, il se dit, hey, si je ramasse ça, je vais devenir vraiment comme invincible. Et en s'en allant là-bas, ben, ça y prend toujours l'énergie, fait qu'il va vider l'électricité, il va essayer de ramasser les lignes hydro, là, mais bon, pour essayer de ramasser l'énergie pour rester vivant. Donc, Hulk et Iron Man vont s'unir. Bon, c'est un film qui est assez vide d'histoire, là, c'est pas compliqué. Ils vont se battre ensemble pour essayer de battre Zax, le méchant. Il y a des combats un peu partout.
C'est un prétexte, là.
C'est
de voir du monde s'affronter puis se taper sa gueule.
Ouais, c'est ça. Ils vont se battre contre l'Hydra. Il va avoir il y a de l'humour tout le long du film. Tu sais, Hulk n'aime pas vraiment personne, mais là, il est obligé de se faire aider par Tony Stark, qui est bon, plus puissant. Il y a des gadgets et tout ça. On s'aperçoit que Hulk contre Zax ne fait pas nécessairement le poids parce que bon, il se fait électrocuter quand il y touche et tout ça. Donc, c'est pas qu'il. Il perd sa force, mais ça le rend un peu plus faible puis il est moins capable de se battre. Donc, Iron Man va y prêter une de ses armures à un moment donné qui fait une scène assez drôle dedans.
Donc, oui, ça doit.
On est vraiment dans... Ouais, parce que le suit n'est pas nécessairement assez grand pour lui, fait que c'est comme des morceaux. Il y a comme le casque, comme des épaulettes. Il a l'air d'un joueur de football à peu près, là, avec une bédaine
un joueur
verte,
de ligne, là, tu sais.
Ouais, avec une bédaine verte, là.
Ou comme... tu sais, l'ogre vert, là, comment est-ce qu'il s'appelle, Shrek, quand il se met une armure sur le dos, là, il dépasse de partout. Ça, ouais. Là.
Bon, c'est à peu près ça l'histoire. Là. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que si je vais trop dans l'histoire, je vais vous vendre le punch. Bon, c'est pas un énorme punch. Là. On sait tout le monde où ce que ça s'en va puis comment ça va finir. Mais bon, il y a quand même des belles scènes de combat. La créature Zax est un... C'est parce qu'on a beaucoup passé sur... autant si on regarde dans Spider-Man avec Sandman, c'est l'homme sable, bon, qui tu le sais que si tu essaies de le pogner, il va juste se transformer en petit tas de sable. Il est dur à attraper. Tu sais, les bonhommes qui sont faits en eau, qui sont faits en énergie, tout ça, c'est toujours la même affaire. T'sais. Tu penses que tu l'as attrapé, mais non, parce qu'il est immatériel, fait qu'il peut te filer entre les doigts, des affaires comme ça. Fait qu'on sait à peu près que ça sera pas facile. Puis qu'on est capable d'étirer ça à peu près comme on veut parce qu'on pense qu'on l'a pogné, mais on l'a pas pogné, tu sais. Fait que leur but, c'est de l'arrêter. Puis la seule manière d'arrêter un bonhomme fait tout en énergie, c'est d'y enlever son énergie. Donc, ils trouvent une manière de comment est-ce qu'on va essayer de faire ça. Puis ils vont essayer de mettre leur plan à exécution. Donc, c'est ça, on voit Iron Man puis Hulk qui travaillent ensemble. C'est pas aussi drôle que Iron Man avec Thor dans les Avengers, là, qui ont vraiment... un problème profond entre les deux. Là. Ils s'aiment vraiment pas, mais ils se battent ensemble, puis par bout, tu sais, dans Avengers, ils se donnent des petits coups un petit peu en bas de la ceinture, chacun leur tour quand que l'autre ne regarde pas. Mais bon, c'est pas vraiment aussi poussé que ça. Mais l'histoire est quand même bien. La seule chose qui va peut-être vous accrocher, toi, Jean-Benoît, tu l'as regardé, ça t'a pas fait nécessairement ça. Moi, ça m'a pris un peu de temps à m'habituer à l'animation. C'est un peu comme du cel shading.
En tout cas, ben, la bande, alors, j'ai vu la publicité qui dure comme 30 okay. secondes. Puis ça semblait être correct, mais oui, ça prend un ajustement. On a voulu faire un peu comme Borderlands, mais aussi peut-être comme des Walking Dead. ouais. mais qui bouge comme plus rapidement. Là, on s'entend que c'est beaucoup plus réactif. Là. Mais oui, ça prend une certaine adaptation pour l'œil.
C'est ça, mais c'est joli, mais ça prend comme un... Moi, ça m'a pris un bon 10-15 minutes avant d'être confortable avec le style d'animation. Mais après ça, c'est quand même joli. Je veux dire, comme je dis, il y a des scènes intéressantes, il y a des combats qui sont intéressants. Le film n'est pas trop long, là, ça dure environ une heure. J'ai pas le temps exact. Là. Le film dure environ une heure et quart, une heure et demie. Là. Donc, c'est pas trop long. C'est un film que les enfants vont trouver intéressant. Mon gars l'a regardé, puis il n'a pas bronché, il n'a pas voulu aller faire d'autres choses. Donc, c'est quand même intéressant. On voit, bon, tout plein d'armures de Tony Stark, puis on voit que Zack est capable de prendre possession d'à peu près tout ce qui est électrique et électronique, vu qu'il est puissance, fait qu'il prend possession d'une armure à un moment donné. Puis, fait que, tu sais, on voit que c'est un ennemi qui est hyper puissant, puis il va falloir qu'ils utilisent leur tête pour être capable de régler le problème. Puis même, à un moment donné, il y a une scène qui est surprenante, c'est que on dirait que Bruce Banner prend le dessus sur Hulk, à un moment donné, il se rechange pas en Bruce Banner. Là, on voit pas dans les dessins animés de Hulk ou des Avengers, on voit plus vraiment Bruce Banner. Il est toujours en Hulk, mais c'est un Hulk qui est capable de penser, qui est capable de parler.
Comme s'il avait pris le contrôle du cerveau de Hulk. Là. Il avait été capable de prendre le dessus sur l'humeur bouillonnante, mais conserver l'enveloppe de muscles.
C'est ça, parce qu'il est capable de parler, il est capable de réfléchir, puis même à un moment donné, il fait une réflexion hyper poussée. Là. Il dit à Tony Stark, ah, mais si on utilisait ça, puis ça, puis ça, on serait capable de le battre, puis tu le quittes, puis là, t'es là, c'est Hulk qui vient de dire
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, ça match pas un peu avec ce qu'on connaît de Hulk, mais tu dis dans le fin fond, ben si Bruce Banner est capable de prendre une partie de la place, ben c'est normal parce que Bruce Banner c'est un génie là, tu sais, dans le fin fond.
Mm-hmm.
Fait que ça, après ça on comprend, mais ça, c'est comme une pause dans le film. On dirait qu'ils ont échappé, on dirait que c'est échappé.
On dirait qu'il avait besoin de quelque chose pour faire avancer la patente.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça c'est un film qui s'écoute quand même bien. J'ai pas trippé sur le film. Là. Je peux pas vous dire que c'est vraiment un must à regarder. Puis que si vous avez pas vu ce film-là, vous allez manquer quelque chose dans votre vie. Là. C'est vraiment pas ça. Mais c'est regardable, c'est le fun à voir. C'est un bon moment à passer en famille. Là. C'est pas excessivement violent comme à peu près la plupart des dessins animés de super-héros. Mais il y a des dessins animés maintenant c'est beaucoup plus poussé. Là. Si vous regardez les derniers Batman, des fois, il y a du sang, il y a plus de violence. Ça, c'est vraiment familial. Là. Il n'y a pas de sang, c'est pas hyper violent. C'est vraiment juste comme correct là, pour à peu près toute la famille. Je le classerais général. Là. Des jeunes enfants ne seront pas traumatisés de regarder ce film-là. Donc, c'est une belle location. Le temps des fêtes s'en vient. Vous allez avoir du temps à passer en famille.
Un ciné cadeau, là, version plus-plus.
Ouais, c'est ça. Ciné cadeau, ben, à notre âge, moi, j'ai tout vu plusieurs fois. Là. Mais vous allez avoir besoin de passer du temps. Il y a des gens qui travaillent et qui doivent s'occuper des enfants aussi. Donc, c'est un bon film si vous amenez votre enfant au bureau avec un lecteur DVD portable ou sur un ordinateur, vous pouvez mettre le DVD ou le Blu-ray dedans, il va regarder ça va passer une heure et demie de son temps, ça va l'intéresser, ça va être un bon passe-temps pour lui, ou en famille avec du popcorn puis du jus, une fin de semaine tranquille, ça passe très bien. Donc je ne donnerai pas une note incroyable, je vais lui donner la note de passage, je vais lui donner un 7 sur 10. L'animation, c'est différent. Ça peut prendre du temps à s'adapter. Peut-être que vous aimerez tout simplement pas ça, puis ça va juste vous repousser. Allez voir la bande-annonce avant de le louer ou de l'acheter, peut-être, parce que si vous êtes vraiment pas capable avec l'animation, ça va juste vous taper ses nerfs.
Quand il y a des combats, Luc, avec ce type de graphisme-là, est-ce qu'on perd l'action ou est-ce que ça reste fluide? C'est quoi ton impression là, quand ça bouge vite? Là?
J'ai vu qu'il y avait un peu, on dirait qu'il y a un peu de latence des fois, mais c'est pas fatigant. Là. On dirait qu'il y a peut-être un peu de latence, là. C'est pas aussi fluide nécessairement que si ça aurait été fait en animation normale ou régulière. Là. Mais c'est quand même bien, c'est pas trop achalant. Donc, comme je vous dis, un 7 sur 10. Là, louez ça en famille, regardez ça, puis vous allez voir si vous allez apprécier. C'est une belle histoire, ça vient pas jouer dans les plates-bandes de l'univers de Marvel qu'on nous met au cinéma. Là. C'est vraiment une histoire à part. Donc, ça vient pas bouger des pions là, dans l'histoire qu'on suit là, maintenant avec le nouveau Thor qui est sorti. On s'en va vers la phase 2. On est dans la phase 2 de l'univers de Marvel. Ça touche pas du tout à ça. C'est vraiment une histoire à part. Il y a rien qui se passe là-dedans qui va affecter le reste des films qui s'en vient pour les années à venir. Là.
OK. Donc, mais... 7 sur 10. Quand même une note passable pour ce genre de divertissement-là. C'est correct.
Bon, c'est une belle location, je dirais. À moins... que t'sais, vos enfants ou vous tripez totalement Marvel, là, puis vous aimez tout ce qui s'est fait à date, là, ça vaut peut-être la peine de l'acheter. Sinon, je vous dirais, c'est une belle location si vous le trouvez à votre club vidéo favori ou sur iTunes, quelque chose comme ça.
De ton côté, Daniel, toi, t'as déjà brûlé le punch, là, c'est ton jeu de l'année, là, fait que c'est bon, là, Zelda A Link Between Worlds, dis-nous pourquoi, là.
Fait que 10 sur 10, on passe à d'autres
ouais,
choses.
C'est bon.
On fait un show d'une demi-heure.
Ah non, tu vois, tu t'es déjà trompé sur ma note. Hein? Ah, okay. Fait qu'il va falloir que je l'explique.
Ah bon, on va être pogné avec toi.
Je le sais que c'est un véritable calvaire, mais écoutez, juste pendant 10 minutes, je vais faire saigner vos oreilles. Fait que on part.
Au moins, on n'est pas face à face. Au moins, on n'est pas face à face.
C'est ça. Voilà. Écoute.
Ouais, non, je le sais, au moins, c'est juste les oreilles qui vont saigner, c'est pas les yeux.
Ah, le prochain show, là, au!
Ben, écoutez, je vous amènerai des gravoles pour le mal de cœur et, je sais pas, du Paxil pour la dépression.
Ah, OK, c'est bon. Bon, ben, écoute, c'est un deal.
Soit des plugs, d'abord, right. Pour les magalies.
En tant que criminel, t'as volé ça, toi? Ouais.
moi, c'est la contrebande de médicaments. Hey, je vais m'acheter un chalet avec ça. Fait que...
Ah ouais, vas-y, Between...
J'y vois là pour ma chronique, j'y vois là. Fait que bref, blague à part, A Link Between Worlds, en fait, ça va sonner beaucoup de cloches pour ceux, les vieux de la vieille comme moi, qui ont joué à A Link to the Past ou à une quelconque, à un de ces quelconques remakes, parce qu'il y en a eu beaucoup au fil des ans, parce que c'est la suite directe de A Link to the Past. Je me rappelle plus exactement, ça prend place combien d'années après A Link to the Past, mais c'est dans le même univers. Donc vous allez voir les similitudes, là, il y en a, ils sont nombreuses, puis c'est peut-être un petit défaut, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Parce qu'au niveau de l'histoire, on se retrouve en fait avec Link, qui est un enfant, mais qui a sa propre maison. En tout cas, moi, j'aimerais ça partir de même dans la vie.
C'est hot, hein? Il est orphelin, mais il a sa maison, là.
Ben moi, je pense que je vais mettre un chapeau vert, une tunique verte, puis je vais dire, donne-moi une maison, j'en mérite une.
Ouais, non, exactement. Mais tu sais, ça fait un petit peu le jour de la marmotte. On dirait que tu recommences tout le temps la même histoire.
Ouais, mais tu sais, dans Link to the Past, bon, c'était ton oncle, t'étais réveillé en pleine nuit par une espèce de voix de princesse dans un cachot. Là, c'est pas ça. C'est que dans le fond, Link, qui est un apprenti forgeron, se rend à la forge de son maître et, rapidement va être embarqué dans une quête où il va encore devoir sauver non pas un, mais deux mondes. Parce qu'il va non seulement devoir sauver le monde de Hyrule, mais aussi le monde de Lorule.
Mais là, écoute, quand il va passer d'un monde à l'autre, est-ce qu'il va se transformer en lapin rose?
Non, il n'y en a pas de lapin rose.
Ça aurait été un beau lien. Un beau clin d'œil.
Ah, mais moi, c'est pas tant le lapin rose que j'ai retenu. C'était plus l'espèce de boule là, qui n'arrêtait pas de se faire kicker. Ça, je l'ai vraiment retenu dans Link to the Past.
Par les petits démons, ouais. Le bullying, ça fait longtemps. Ça date pas d'hier.
Il y en a dans Zelda du bullying.
Ouais.
Fait que, en fait, je pense que c'est le précurseur du jeu Bully.
Certainement.
Tu te rappelles?
Certainement.
Non, mais au niveau de l'histoire, en fait, c'est que Link va être confronté à un méchant qui s'appelle Yuga et qui est très narcissique parce qu'il parle de lui à la troisième personne. Donc, et Nintendo a un petit peu de misère à faire des méchants qui sont virils. Hein? Tu sais, depuis quelques années, dans Skyward Sword, c'était pas le plus viril sur la Terre. D'ailleurs, je me rappelle, au début, il sortait à l'angle, puis c'était malaisant au bout. Dans A Link Between Worlds, je sais pas si vous vous rappelez des grandes fées qui apparaissaient dans Ocarina of Time. tu sais, des espèces de grandes filles que tu voyais tout le corps en espèce de, je sais pas, en tout cas c'était comme une séquence d'images là, c'était vraiment pas beau. Ben, le modèle de Yuga a été un peu inspiré de ces filles-là, fait que ça donne un drôle d'effet honnêtement. En tout cas, c'est pas le méchant le plus viril qu'on a vu sur la Terre. Mais évidemment, Ganon revient et joue quand même un rôle dans l'aventure pour contrebalancer cette espèce de, en tout cas, de manque de masculinité-là.
Fait que, quand ton nom c'est Yuga, puis c'est bien proche de Yoga, là, c'est dur à être full.
Ouais, mais foul. Écoute, tu veux-tu savoir c'est quoi sa technique spéciale à Yuga? Pourquoi que c'est un méchant si puissant?
Pourquoi?
Il est ben, c'est un artiste. Il est capable de transformer n'importe qui en peinture.
Ah, ben oh, wow. Oui.
Donc, ben oui. C'est ça son pouvoir.
Une nature morte, c'est néfaste en bâtisse, là. C'est
ben,
dangereux,
écoute,
là.
Il met le royaume d'Hyrule à quasiment à feu et à sang.
À feu et à encre, tu veux dire?
Ouais, à feu et à ongles, si tu veux. Là. Mon Dieu, Jean-Benoît. Que de vivacité d'esprit.
Ah, je suis... ouais, le vivace.
Ça reprend pendant que ça passe, c'est rare.
Vivace comme les plantes. Vivace.
Oui, absolument. Fait que, mais bon, là, tu sais, ça a l'air très enfantin. Puis c'est vrai que l'histoire, ça commence, puis t'es comme... Tu sais, t'es pas trop dedans, puis tu te demandes... Bon, tu sais, Yuga, quand tu le vois la première fois, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais l'histoire prend quand même une tournure intéressante quand tu traverses de l'autre côté, dans le monde de Hyrule, parce que le monde de Hyrule, c'est l'équivalent du Dark World de A Link to the Past. Puis tu vas retrouver un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus prenant. Puis la princesse de cet univers-là va vraiment faire appel à Link pour que Link l'aide évidemment à sauver son royaume. Mais aussi, tu vas voir une espèce de jalousie se transformer entre cette princesse-là et la princesse Zelda, qui, oui, a été transformée elle aussi en peinture, mais ça va devenir une espèce de type d'envie, dans le sens que la princesse de Hyrule va commencer à envier Zelda parce qu'elle, elle a un héros qui peut sauver son royaume, contrairement à elle, finalement, tu sais, qui doit laisser son royaume dans les ténèbres. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, moi, je dirais, il n'y a peut-être pas une touche aussi épique que Link to the Past, mais c'est quand même une histoire qui devient intéressante dans sa deuxième portion. Dans la première, c'est plus ou moins prenant, puis un peu comme Link to the Past, ça prenait un petit peu de temps avant de s'amorcer, de s'enclencher. Mais dans la deuxième portion, le jeu est beaucoup mieux.
Ben, si ça permet de bien ancrer l'histoire, après, tu sais, de connaître les mécaniques avant de décoller, moi, je trouve ça correct. Tant que ça vaut le prix, tu sais, ça valait la peine par la suite.
Ouais, ben, en fait, c'est parce que il y a deux publics, hein. Il y a ceux qui ont jamais joué à Link to the Past qui vont découvrir vraiment un nouveau jeu. Puis il y a ceux qui ont déjà joué à Link to the Past qui vont trouver énormément de similitudes. D'ailleurs, la quête principale ressemble beaucoup à celle de Link to the Past. Juste pour vous dire, dans le monde de Hyrule, là, dans la première portion du jeu, vous allez devoir trouver trois pendentifs qui ressemblent énormément à ceux de Link to the Past. Et dans la seconde portion, au lieu de... C'était des jeunes filles, je pense, dans Link to the Past, là, si mes souvenirs sont
ouais,
bons.
Comme les princesses, là, les filles des sages.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'était des sages, mais ils étaient toutes féminines.
C'était les ancêtres, les descendants des sept sages. On a fait la même. Là.
C'est ça, exactement. Ben, dans A Link Between Worlds, ça va être encore sept sages que vous allez devoir sauver. Donc, c'est une quête qui se ressemble beaucoup entre les deux jeux. Et non seulement t'as le même univers, mais t'as la même histoire.
Parce que Dieu seul sait qu'un sage, ça donne toujours naissance à un seul enfant, un enfant unique. C'est tout. Sinon, ça marcherait pas, tu sais.
Ben, t'as-tu remarqué que pas dans chaque Zelda, mais dans beaucoup de Zelda, il y a des personnages qui reviennent. Tu sais, comme t'as Link, t'as Zelda, mais t'as aussi Impa, qui est l'espèce de de conseillère de Zelda. Et t'as aussi Sahasrara, j'espère que je le prononce bien, qui est un vieux bonhomme qui fait son retour dans Link Between Worlds. Donc, il y a beaucoup de similitudes comme ça que tu vas retrouver entre le classique de la Super Nintendo puis le nouveau jeu sur Nintendo.
C'est cyclique dans l'univers de Zelda. Là.
Ouais, non, c'est ça, tu sais. Donc, c'est pas le jeu qui fait le plus avancer la franchise, mais ça demeure quand même intéressant. Puis là, là, j'ai de l'air super critique. Puis, tu sais, comment ça que, qu'il dit que c'est son jeu de l'année, puis il n'a pas de l'air à trop triper. Mais c'est parce que, moi, honnêtement, tu sais, quand tu es rendu à un point où il faut que tu trouves des petites bébites pour dire que le jeu est pas parfait, ben, c'était un peu ça, moi.
Fait que là, tu as donné ben une petite antenne aux mini bébites. C'est ça que tu es en train de nous dire, là.
Ben, il y en a d'autres mini-bibites. Moi, je trouve que, par exemple, t'as un avantage si t'as joué à Link to the Past parce que il y a beaucoup d'objets que tu vas retrouver aux mêmes endroits dans Link Between Worlds. Donc, okay. Par exemple, il y a des pots, que des espèces de bocaux, ben il y en a beaucoup que c'est aux mêmes places que dans le passé. Je trouve aussi que la caméra est un peu trop rapprochée de Link, ça donne certains problèmes à certains moments, mais c'est vraiment les seuls petits défauts, parce que pour le reste, c'est vraiment un excellent jeu, c'est un jeu qui est très fourni. C'est une quête quand même, en tout cas, si vous voulez le compléter à 100%, c'est une quête qui se compte en dizaines d'heures. Là, pas une dizaine d'heures, là, mais bien des dizaines d'heures.
Okay.
Il y a la quête principale, mais il y a aussi des quêtes secondaires, dont 100 petites créatures à trouver pour une espèce de grosse créature qui va pouvoir... en fait, améliorer tes objets que tu vas posséder. Donc, c'est intéressant. Évidemment, il y a la quête des corps de cœur, donc que tu vas pouvoir acquérir un peu partout dans le monde du jeu et aussi à travers des mini-jeux que tu vas retrouver un peu partout là, dans les différents environnements que tu vas, dans lesquels tu vas voyager. Ça, c'est pour la longévité de l'aventure. Pour le reste, oui, il y a des nouveautés et la principale est que tu peux te transformer en peinture. Donc, Yuga, à un moment donné, va te transformer en peinture et par miracle, tu vas pouvoir sortir du mur comme ça et utiliser le pouvoir de la peinture à volonté. Ce que ça fait, c'est que ça apporte une dimension à la franchise Zelda qui est super intéressante parce que en longeant les murs, tu vas pouvoir accéder non seulement à d'autres surfaces, mais aussi compléter des casse-têtes qui sont vraiment pas pareils à ce que tu as déjà retrouvé dans la franchise Zelda. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, pas juste à un moment donné, à plusieurs endroits, tu vas pouvoir longer un mur qui va se surélever ou qui va se déplacer. Mais ça, ce que ça fait, c'est que dans le fond, tu vas devoir te plonger dans le mur pour accéder à d'autres surfaces et donc pouvoir avancer dans un donjon ou dans une caverne là, dans laquelle tu vas te retrouver. Il y a aussi beaucoup de casse-têtes, beaucoup de secrets qui utilisent ça. Puis ce que ça fait, c'est que tu as envie finalement de plonger dans tous les murs que tu vois pour voir si tu peux atteindre, une butte de terre qui se trouve plus loin, un coffre au trésor que tu peux pas accéder par des moyens normaux. Tu sais, fait que tu as envie de plonger dans le mur, tu as envie de découvrir l'univers qui t'est proposé. Fait que ça demeure classique, mais Nintendo l'a transformé d'une façon qui fait en sorte que tu as envie de t'aventurer dans cet univers-là qui est classique. Parce que ils ont finalement tiré profit de la nouvelle technique qu'ils ont mis de l'avant là, dans Link Between Worlds. Donc voilà pour la grosse nouveauté. L'autre grande nouveauté sur laquelle j'étais pas sûr, t'sais, j'avais des réticences, j'étais comme on brise quand même un grand classique de la franchise Zelda, c'est au niveau des objets. Parce que maintenant, tu ne découvres plus un objet par donjon. Tu sais, dans le passé, tu découvrais un objet important dans un donjon. Puis ce que ça faisait, c'est que cet objet-là te servait à compléter le donjon. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, tu vas pouvoir louer des objets. Éventuellement, tu vas pouvoir les acheter. Mais tu vas pouvoir louer les objets à un personnage qui s'appelle Lavio, qui a beaucoup d'ailleurs de similitudes avec le personnage de Nabit de New Super Mario Bros. U.
OK.
D'ailleurs, petite anecdote, Nintendo l'a expliqué ça. C'est parce que l'équipe de A Link Between Worlds est à côté de celle de New Super Mario Bros. U. Donc, ils pensent qu'ils ont copié le design de Nabit. Nintendo l'avait mentionné ça.
Si c'était une autre boîte qui avait fait ça, il y aurait eu des poursuites en justice.
Ah, ça, c'est clair. Oublie ça. Ça, c'était fait.
Mais là, moi, j'accroche sur le fait que tu me dis qu'on loue des objets.
Comment,
le monde, ils comprennent pas que le monde est en danger. Non, t'as besoin de ça pour sauver l'univers. Non, je te loue, tu vas me le ramener. Hein. Demain, avant 6h, comme un club vidéo.
Ben non, ça marche pas de même. En fait, les objets, tu vas pouvoir les louer, mais les garder tant que tu meurs pas.
OK.
Si tu meurs, tous les objets que tu as loués vont être enlevés. Éventuellement, tu vas pouvoir les acheter, là, mais en tout cas, pour une bonne portion du jeu, il va falloir que tu les loues, que tu les gardes avec toi tant que tu meurs pas. Ce qui fait en sorte que si tu es bon ou si tu fais pas exprès de mourir, ben tu peux juste payer une fois puis finir l'aventure avec les objets que tu as loués.
Ouais, mais mettons là, tu arrives dans un donjon, tu as eu besoin d'un objet X pour pouvoir te rendre à la place que tu es, tu meurs. Tu peux plus avancer, tu peux plus reculer parce que t'as plus l'objet. Tu fais quoi? Est-ce que ça arrive, ce genre de situation-là?
Non, ça arrive pas parce que si tu meurs dans un donjon, premièrement, tu vas ressortir, tu vas pouvoir retourner à la maison de Lavio, qui dans le fond est ta propre maison. Lavio, t'as à vol.
Ah, il squatte, il te loue tes affaires puis il squatte ta maison.
Ouais, il squatte ta maison.
Hey, ça va bien?
C'est un personnage... En fait, c'est l'ancêtre du politicien d'aujourd'hui.
j'adore l'image.
Oui, hein? Mais... donc, c'est ça, tu sais. Mais inquiétez-vous pas, dans le sens que vous manquerez pas de rubis dans le jeu. Il y en a partout, des rubis. Il y a des coffres partout. Il y a des rubis à trouver partout. Donc, inquiétez-vous pas pour les rubis. Vous allez en trouver beaucoup. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à les économiser parce que, bon, ça va vous en prendre pour des activités dans le jeu. Donc, je vous invite à les économiser, mais vous en manquerez pas. Il y a beaucoup, beaucoup de pièces précieuses dans le jeu que vous allez pouvoir acquérir. Donc, mais tu sais, vous allez louer les objets, donc ce qui fait en sorte que vous pouvez compléter les donjons dans l'ordre que vous voulez, mais on se distance pas tant que ça de la formule classique de Zelda, dans le sens que chaque donjon nécessite un objet en particulier pour le compléter. Donc, tu sais, oui, on a voulu casser un classique de la franchise Zelda, mais en même temps, on est demeuré prudent, tu sais, on s'est pas trop distancé. Ce qui fait en sorte que dans chaque donjon, vous allez voir qu'il y a un objet qui va être beaucoup plus utilisé que les autres.
Puis là, ben, les objets que tu loues, là, est-ce que le prix va en augmentant d'un objet à l'autre, ce qui te fait voir que ben, l'objet avec le prix le plus bas, ben, c'est probablement pour le donjon le plus faible. Le non. Deuxième, ainsi de suite, pour avoir quand même un ordre pratiquement chronologique des événements à suivre.
Non, il y a plusieurs objets qui sont du même prix. Il y a certains objets comme la canne de feu, la canne de glace. Ça, c'est à des prix plus élevés, mais ça t'indique pas nécessairement, bon, tel objet est pour un donjon qui est jugé plus facile. Non, ça marche pas vraiment comme ça.
Okay.
Mais par contre, c'est sûr qu'il y a des donjons qui... En tout cas, ça, c'est dur à dire quand vous allez le compléter pour la première fois, le jeu. Mais si vous y revenez une autre fois après, ben là, vous allez voir qu'il y a certains donjons que c'est mieux de compléter dans un certain ordre parce qu'ils vont vous donner accès à d'autres objets. Par exemple, là, je vous donne un exemple comme ça, puis c'est pas vraiment un spoiler. Le temple du sable dans le monde de Lorule, si vous le complétez, ben ça va vous donner accès à des gants qui vont vous permettre de soulever des grosses roches. Puis ça, c'est super utile parce que ça vous donne accès à plein de secrets puis plein de corps de cœur. Donc, tu sais, mais ça, tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas fait une première fois.
Sauf quand t'écoutes l'émission puis que Daniel te spoil la patente.
Ouais, je m'excuse. Mais vous allez voir, mais il y a certaines petites choses comme ça, c'est pas un défaut, là. Moi, je trouve que le fait que tu puisses louer tes objets, que tu puisses t'aventurer comme tu veux dans le jeu, ça ouvre une liberté qui était pas présente dans Link to the Past, puis qui aujourd'hui, ben, force le joueur à pas suivre une ligne directrice, finalement. Mm-hmm. Dans la première portion du jeu, les trois pendentifs, c'est... Tu sais, faut quand même que tu suives un certain chemin. Mais après ça, pour sauver les sept sages, là, oubliez ça, là, c'est vraiment comme vous voulez, là. Vous y allez un peu free for all, là, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Il y a un multijoueur dans le jeu.
Oui, oh boy. Un multijoueur.
Ben, c'est à demi multijoueur, en fait.
Okay.
En fait, c'est le Street Pass. Donc, ce que ça fait, c'est que si, mettons, vous rencontrez des joueurs qui ont joué à Link Between Worlds, ben il y a une copie de leur Link qui va se télécharger dans votre jeu, puis que vous allez pouvoir affronter pour des rubis. C'est intéressant, mais c'est pas...
Oh boy!
C'est pas super développé, là, sens que...
Écoute, j'ai le goût de me promener avec ma 3DS ouverte dans le quartier chez nous, puis croiser plein de Link, là. J'ai le goût.
Mais c'est étonnant. Ah ouais. Moi, je me suis dit, j'en ai croisé beaucoup de propriétaires de 3DS, tu sais, dans le métro, whatever.
Moi, je sais bien, monsieur Montréal.
Ouais, le full ghetto, man. Ghetto 3DS.
Ouais.
Mais c'est drôle, j'ai pas croisé tant de joueurs que ça qui ont joué à Link Between Worlds. J'ai beaucoup plus croisé de joueurs qui ont joué à Animal Crossing New Leaf. Ça, en veux-tu des fournitures pour ta maison, ça, j'en ai pogné à dizaines. Mais des Shadow Link, là, des Link noirs que tu peux affronter dans Link Between Worlds, ça, j'en ai pas eu beaucoup. Fait que ça, j'ai été quand même étonné. Fait que, mais, tu sais, c'est pas un... En tout cas, c'est cute, là, comme elle joue, mais c'est pas quelque chose qui va vous faire vraiment accrocher plus au jeu. Il y a des défis, là, des espèces d'achievements, si vous voulez, qui sont reliés au mode Street Pass, mais, tu sais, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé l'attrait... En tout cas, j'ai pas trouvé un grand attrait. Concentrez-vous plus sur le solo, vous allez en avoir beaucoup plus pour votre argent. Ce qui me fait penser aussi que le jeu a un mode de difficulté beaucoup plus élevé une fois que vous l'avez complété, qui s'appelle le mode Hero. Vous allez voir que ça, c'est tout un mode... c'est vraiment pour les hardcore. Là. Le nombre de cœurs est limité, la régénération de vos cœurs aussi est limitée. C'est vraiment pas pour ceux qui commencent dans la série Zelda. C'est assez difficile, puis ça n'a rien à voir avec le mode Hero de Wind Waker HD. Là. Ça, c'est un vrai mode beaucoup plus difficile. Là.
OK, mais la location d'objets devient plus lourde dans le fond avec ce mode-là, puisqu'on va mourir plus souvent.
Exactement.
OK. Donc, si on y va avec une note pour ton jeu de l'année?
Eh bien, c'est la plus grande note que j'ai donnée cette année. C'est un beau 9.5 sur 10.
Ah bon, on n'était pas loin. Là, Luc avait dit un 10 tantôt. Là.
Ah non, mais écoutez, c'est clair, c'est un must. Si vous avez une 3DS, là, achetez ça, ben, ou maintenant une 2DS aussi.
On peut-tu le louer, puis quand on meurt, on leur donne?
T'es-tu un politicien, toi?
Je sais pas.
Non, pas des idées.
Ouais, c'est ça.
Ouais, non, c'est ça. Mais mais écoutez, acheter ça, c'est un must, c'est un incontournable. Moi, Nintendo a pris un gros risque. Hein. Tu sais, quand tu revisites un classique, tu peux te planter facilement. Écoute, pour moi, là, c'est ce qu'une suite d'un classique devrait être. C'est comme ça que ça devrait être. C'est comment que Nintendo l'a fait, comment qu'ils ont modifié l'univers, comment qu'ils ont intégré les nouveautés de A Link Between Worlds dans l'univers de A Link to the Past. Ben, chapeau, vous avez vraiment bien fait votre job.
Hey, avant que j'embarque avec ma critique, on a eu un Nintendo Direct aujourd'hui. On enregistre le 18 décembre 2013, juste pour placer les gens dans le temps. Et on a annoncé un nouveau jeu dans l'univers de Zelda, un genre de Dynasty Warriors avec Link. Je veux savoir tes premières impressions. Là, on a vu une petite vidéo d'une minute là, qui nous démontre un peu à quoi ça va ressembler. Tes impressions là-dessus, Daniel?
Je suis pas convaincu, mais vraiment pas. En fait, moi, j'ai peur que ça soit un espèce de mode qu'on nous vend comme un jeu. Tu sais, je regardais la vidéo, là, puis j'étais comme, ben, c'est un beat them all, tu sais, ça a pas de l'air super profond, ça a pas de l'air super
beau. C'est God of Zelda.
Ouais, mais... Sans l'histoire.
Ouais, ou encore, moi j'ai comparé ça sur la page Facebook de la réalité augmentée. D'ailleurs, vous avez le lien pour aller vers la nouvelle là-dessus. J'ai comparé ça à Pokémon Stadium. Que t'es comme dans une arène, puis tu fais ton combat, puis une fois que t'as abattu tous les ennemis, le challenge que t'avais, ben tu recommences à zéro, puis tu y vas avec un niveau plus élevé, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que t'es plus capable d'avancer. C'est l'impression que ça donne.
Ben moi j'ai vraiment des craintes. Moi je suis super prudent. Tu sais, c'est un spin-off, là, on s'entend. Là. C'est d'ailleurs Monsieur Iwata qui fait toujours les Nintendo Direct malgré ce que j'ai dit. Il m'écoute pas.
Non, c'est. Moi il m'écoute. Il arrête de il met moins de niveau d'eau dans les Mario, mais toi il t'écoute pas.
Non, faudrait t'apprendre le japonais.
Peut-être.
Puis tu y dises en japonais, peut-être.
Peut-être. Peut-être. En tout cas, mais Monsieur Iwata dit que c'était pas un nouveau Zelda. Hein. C'est vraiment un spin-off. C'est même pas développé par Nintendo. C'est développé par Tecmo Koei. Moi, honnêtement, là, les spin-offs, là, c'est un risque.
Moi, j'ai l'impression que ça dilue le produit.
Ouais, il y a ça, puis en même temps, j'ai l'impression, tu sais, on va mettre le nom Zelda, puis on va en vendre parce qu'il y a le nom Zelda, là. Même si Dynasty Warriors, c'est une série qui est populaire aussi, là, elle a quand même son public, cette série-là. Mais moi, de ce que j'ai vu, ça a l'air le fun, mais ça m'a l'air d'un mode qu'on aurait pu mettre dans un Zelda. Mais je vais laisser la chasse au coureur. J'ai quand même hâte de l'essayer. Puis je peux me tromper, hein, je suis humain, après tout.
Ah ouais, on le sait, ah ça. Non, on le sait que t'es humain.
Ah oui, tu me considérais pas comme ton dieu?
Non, même si... Non, même si...
Même si... Même si je mesure 8 pieds.
Ouais, même si tu mesures 8 pieds et que tu es plein de sagesse. Non, pas comme un dieu, non.
Non, mais tu sais, écoute, je peux me tromper, mais moi, je sais qu'il y en a qui ont trippé sur ce qu'ils ont vu, puis que c'est sûr, ça a été une surprise. Personne ne l'a vu venir, mais en tout cas, moi, je suis pas convaincu, puis je suis loin d'être aussi excité que si ça avait été un vrai Zelda pour Wii U. C'est ça.
Alors, A Link Between World, Zelda, c'est un bon jeu, allez vous acheter ça.
Ouais.
Mathieu, moi j'ai quelqu'un que je connais qui l'a joué, puis il l'a trouvé court. Il m'a dit qu'il l'a trouvé, ouais, il m'a dit qu'il l'a trouvé court pour un Zelda. Je sais pas combien de temps qu'il a joué, mais la seule, il dit que le jeu était écœurant, il a eu bien du fun, mais qu'il l'avait trouvé court. Regarde, je peux pas te dire, moi je l'ai joué 10 minutes à l'événement qu'ils ont fait à Montréal sous la pluie, parce que j'ai pas eu la chance d'en recevoir une copie, mais je veux dire, moi pour ce que j'ai essayé, je trouvais que c'était beau, puis je trouvais que c'était, ça valait le fun, mais lui qui est un fan de Zelda depuis des années m'a dit qu'il l'avait trouvé court.
Ben, c'est sûr que la durée de vie est pas comparable à un Ocarina of Time ou un Skyward Sword, là. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, s'il l'a trouvé court, je doute qu'il l'ait fini à 100%, là, parce que il y a quand même du stock. Mais c'est sûr que c'est pas comme un Zelda en 3D, là.
Tu évalues à combien Zelda d'heures, Daniel? Mettons que tu sais, faire la quête principale, combien d'heures?
On va faire la quête principale, juste la quête principale, ouais. Ça. Il doit être autour de 8-10 heures.
OK, c'est peut-être ça, là. T'sais, si ouais, si le fait de A à Z, quête principale, tu sais, le run speedy, là, puis non, c'est peut-être ça, là, que trouvé cool. Là.
Ben, c'est une approximation, parce que moi, je l'ai pas faite de même. Moi, honnêtement, je cherchais à tout avoir, fait que je peux pas vous le dire exactement. Mais c'est clair que si tu veux te le faire en ligne droite, effectivement, c'est pas très, très, très long.
À comparer des anciens Zelda...
Non, c'est moins long que... Tu veux dire les anciens, les gens plus open world?
Non, mais c'est ça, genre, mettons, le précédent... parce que moi, j'ai des Zelda, j'ai jamais embarqué là-dedans, là, mais mettons, le précédent Zelda, faire la quête principale, c'était-tu...
Mettons, comparativement
A Link to the Past?
Ouais, A Link to the Past, là, qui est comme le celui qui vient juste avant, en termes de chronologie d'histoire, là.
Similaire. La durée de vie, c'est similaire. En ligne droite, là, on s'entend.
Ouais.
Okay.
Ouais, c'est similaire.
Puis t'as rien à romancer dans celui-là, puis écoute, on trouvait ça amplement bon. Fait que...
Ah non, écoute, mais tu sais, je pense que ton ami, il l'a dit, là, il a trouvé ça écœurant, même s'il a trouvé ça court.
C'est ça, non, il a trouvé que le jeu était bon, mais il en aurait pris plus. Il a trouvé que c'était pas long.
Ouais, mais ça, c'est un défaut puis une qualité. Hein. Des fois, on voit pas le temps passer quand on trouve ça bon.
Comme dans The Last of Us?
Ouais. Oui.
J'essayais de faire le lien.
Non, tu t'en viens pas pire, mon Daniel. The Last of Us, oui, je l'ai pas fait comme tout le monde. Je suis convaincu qu'il n'y a pas grand monde qui ont traversé The Last of Us comme moi je l'ai fait. Je l'ai loué d'un club vidéo et je l'ai traversé dans une fin de semaine de 3 jours. Donc, très intense.
Ta blonde remercie le club vidéo en question.
Ma blonde qui est à l'extérieur, d'où le fait que j'en ai profité.
OK.
Extrêmement compressé dans le temps. Je l'ai fait de A à Z vraiment rapidement. J'ai pas tout cherché et je trouve ça même dommage. Je me suis coupé moi-même d'une partie de l'expérience de Last of Us. Mais c'est un excellent jeu. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, vous êtes peut-être pas très nombreux, mais il y en a quand même peut-être parmi vous. The Last of Us, c'est l'histoire de Joel, un homme qui est un passeur, qui fait un petit peu de contrebande d'armes, alors que la planète est envahie par une horde de c'est pas des zombies. C'est des humains qui ont été
infectés,
oui, par des...
Des plantes, hein?
C'est des genres de champignons, donc, qui vont comme prendre possession. Ça existe dans la nature, là, pour vrai, là. Entre autres, là, des cordyceps, qui appellent ça. Cordyceps, oui, exactement. Une genre de sorte de champignon qui va s'implanter dans le cerveau des fourmis, qui va venir qu'elle les contrôler pour que la fourmi développe la colonie de champignons puis s'occupe de celle-ci, même si c'est contre sa volonté, tu sais. Ça existe des parasites comme ça dans la nature. Et on a transposé ça comme si le parasite en question, ben, se transformait et devenait capable d'infecter le cerveau de l'humain. Et oui, c'est, on va se le dire, c'est des zombies, mais ils sont juste différents. Ça nous permet d'avoir des classes de zombies d'infectés, parce qu'on va les appeler des infectés tout le long, même si c'est des zombies, là, on va se le dire, vont varier. T'as ceux qui sont fraîchement attaqués, qui vont être des runners. Donc, eux, ils vont être extrêmement agressifs. Ils vont te courir après, mais ils sont fragiles. Ils ont la durabilité d'un humain standard. On a ensuite, après un peu plus de fermentation, les stalkers, eux, ce sont des... ils vont être en zombie, vont se déplacer tranquillement, vont encore voir à distance, vont être agressifs, vont marcher vers vous, vont même courir à certaines occasions si on les alarme, mais vont être un petit peu plus difficiles à tuer, mais ça va être encore une tâche relativement facile. Ensuite, vient les grosses patentes, les clickers. Eux, ils ne bougent pas. Restent debout dans la pièce où est-ce qu'ils sont. Ils font des petits cliquetis. Clic, 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 clic. Comme si, un peu comme les chauves-souris avec leur ultrason, là, ils émettent un bruit puis ils attendent que le son leur revienne pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on va les entendre, on va les percevoir de loin et on va devoir bouger extrêmement tranquillement pour soit les éviter, soit les poignarder pour pouvoir s'en défaire ou encore les headshotter. Habituellement, ils sont plusieurs dans une pièce. Donc, si on décide d'y aller avec une arme qui fait du bruit, attendez-vous à ce que les autres vous courent après. Dès qu'ils vous touchent, vous êtes mort, parce qu'il n'y a pas moyen de s'en sauver. Il faut vraiment être vif sur le gun pour être capable de s'en sortir. Et après ça, on a des espèces plus évoluées qui sont des boss qui vont muter là, énormément. Ils vont devenir super gros et vont être très difficiles à tuer. On en croise quelques-uns dans le jeu, mais c'est vraiment pas des espèces qui sont très, très communes. Donc, voilà pour les ennemis de base. Après ça, bien entendu, on va retrouver des êtres humains qui vont barrer notre chemin pour X, Y raisons. J'en reviens à l'histoire. Joël est un passeur d'armes. Il va faire du trafic au noir. Habite dans une colonie sur la côte est américaine. On se situe probablement dans le secteur de Boston, New York, là, dans ce coin-là. Et un jour, l'une de ses amies lui parle d'une jeune fille qui s'appelle Ellie. Cette jeune fille-là... il doit l'amener à une place à l'extérieur de la ville pour l'amener à un groupe qui s'appelle les Lucioles, qui sont un genre de regroupement de survivants qui sont contre le gouvernement et l'armée américaine. Ils ont décidé, eux, que la façon de procéder de l'armée, ça ne leur convenait pas, que leur façon de faire était peut-être la meilleure. C'est comme des contrevenants de la loi. Il y a comme une guerre ouverte entre les deux clans. Dans le milieu de ça, tu as les zombies. Et là, on va devoir quitter la zone de quarantaine dans laquelle on est avec la petite fille et l'amener jusqu'au camp des Lucioles le plus près. Et là, ben, ça enchaîne événements par-dessus événements qui vont faire qu'on va devoir avoir un objectif qui est peut-être plus loin. Et le jeu va se transformer un peu en road movie, comme les films, mais pas de voiture. Donc, on va... finalement, on se rend à cette place-là. Les Lucioles sont plus là où il arrive un événement. Finalement, on va devoir aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, ainsi de suite. On découvre éventuellement... Oui, Luc?
Ça fait penser à Walking Dead.
Oui,
faut
énormément.
Faut que t'amènes la petite fille à quelque part.
Énormément. Énormément, on doit se l'avouer. Il y a clairement une inspiration. La petite fille en question, ce qu'elle a de particulier, ce qu'on ne sait pas au début et qu'on apprend assez rapidement, c'est qu'elle a été mordue par l'une de ces créatures-là. Normalement, les personnes vont s'en transformer. On parle de à peu près 48 heures avant que la transformation s'effectue. La petite fille, elle, ça fait 3 semaines qu'elle a été mordue. Elle est toujours entrée, elle est toujours en plein contrôle de sa personne. Elle ne s'est pas transformée. Et donc, pour les Lucioles, ça devient l'espoir de trouver un remède et peut-être sauver l'humanité. on va devoir l'amener jusqu'au camp des Lucioles, et ainsi de suite. Là. Ce bout-là, je dirais pas en détail tout ce qu'on doit faire, mais on va passer différentes étapes. Et au départ, Joël est un homme qui est complètement froid. Il a perdu sa fille le soir où est-ce que s'est déclenché les événements, il y a une dizaine d'années. La première infestation, là où est-ce que le problème a décollé. Il a perdu sa petite fille, il est extrêmement froid, il est calculateur, il est... tu sais, il y a eu une visure et ça paraît, tu sais, c'est un mur, là, c'est un cœur de pierre. Et tranquillement, pas vite, va s'attacher avec la petite fille jusqu'à avoir une relation père-fille avec celle-ci, va la protéger et va en prendre soin plus que comme un passeur qui doit protéger un colis, mais plus comme un père qui protège sa fille. Le jeu est extrêmement joli, est extrêmement... prenant. Les environnements sont... c'est un corridor, okay, on va se le dire, mais c'est un sapristi de beaux corridors. Corridor dans le sens que tu n'as qu'un seul chemin que tu peux aller du point A au point B pour faire la suite logique des événements, l'histoire, et tu n'as pas d'autres options. Tu as un passage, une façon de faire. Essaye pas de passer par le revers, ça marchera pas. Tu as une façon de procéder. Mais c'est un très, très beau corridor et on masque bien ce fait-là que tu n'as qu'une façon de procéder. Tu vas voir certains endroits où est-ce que tu vas avoir des petits casse-têtes pour pouvoir avancer, des petites énigmes, contrer l'environnement pour pouvoir avancer. À d'autres endroits, tu vas avoir des environnements plus vastes où est-ce que tu vas arriver dans un village où tu vas avoir quelques maisons dans lesquelles tu peux te promener comme bon te semble, tu as un environnement plus ouvert où est-ce que tu vas peut-être affronter des ennemis où tu vas devoir faire des recherches. Mais encore là, tu rentres par un point, tu ressors par un autre point. C'est tellement un corridor ce jeu-là que tu n'amènes pas de carte. Donc, tu n'as pas de radar, tu n'as pas de point de repère. Tu dois regarder ton environnement. OK, j'arrive de là, je m'en vais vers là. Puis, tu ne te perdras pas. À moins d'une surprise, là, tu ne devrais pas te perdre. Donc, c'est dire comment est-ce que c'est un corridor, mais on s'en tire bien malgré tout dans le fait que c'est un corridor, mais très, très joli. Les environnements sont beaux. J'ai rarement vu un jeu d'une qualité visuelle aussi grande. Je parlais de GTA la semaine dernière, comme quoi c'est un jeu qui était beau, qui était grandiose, il y avait de grands environnements, mais je pense que côté visuel de Last of Us est encore mieux. C'est sûr que la grandeur des environnements qu'on parcourt, ben on permet donc d'avoir un plus grand souci du détail, parce qu'on en a moins à générer, mais c'est très très joli. Vous voyez les images, ça ressemble à un film. On se croirait vraiment dans un film. Et les images de cinématiques sont exactement les mêmes que quand on est en train de jouer. Le souci du détail, Naughty Dog, ceux qui ont développé le jeu, qui est une exclusivité sur PlayStation 3, ils ont bien fait ce côté-là. C'est tellement ressemblant à un film qu'à un moment donné, on a une scène où est-ce qu'on se promène dans une ville et on croise un troupeau de girafes. On l'a tous déjà vu dans les previews du jeu. Donc, je vous dis pas à quel moment ça se retrouve dans l'aventure. Mais à un moment donné, on croise un troupeau de girafes. Et là, la petite Ellie est toute émerveillée. Waouh, c'est donc bien beau. Puis c'est vrai que c'est beau. Puis on se prend à rester là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les girafes? Ils sont en train de brouter dans un arbre. Ils se déplacent, vont faire leurs petites affaires. À un moment donné, tu fais comme, bon, ben écoute, faudrait que j'avance.
Moi, il y a les mois là.
Faudrait que j'avance. Puis, tu sais, tellement que tu fais comme, ouais, j'avais lâché la manette, je m'en suis même pas rendu compte. Tu sais, j'étais en train d'observer qu'est-ce qui se passe. Les personnages se jasent. Ça dure peut-être 2-3 minutes. Puis, écoute, ça faisait comme 5-6 minutes. Les girafes continuaient. Moi, là, écoute, la grosse aventure palpitante. Tu sais, autant cet univers-là, parce que c'est un survival horror, donc un jeu qui est censé te faire peur, autant à certains moments, c'est grandiose, c'est beau, c'est joli. La nature qui prend le dessus sur les environnements, tout ce qui est bâti par l'humain, ça fait une quinzaine d'années que c'est abandonné, et donc la nature est en train de prendre le dessus. Même dans les moments sombres, c'est beau. La nature, c'est... Tu te dis, OK... Si ça arrive, c'est parce que c'est peut-être une vengeance de la nature contre l'humain, puis que le monde reprenne leur place, arrive dans, tu sais, plus restreint la place de l'humain. Les animaux, eux autres, écoute, ils font leurs petites affaires, la vie est belle. Tu sais, la nature est zéro perturbée par cette invasion-là. Elle, c'est plutôt un gain, là. Elle se débarrasse de la race qui lui nuisait le plus. Puis elle, après ça, elle a plus de problème avec les champignons vivants. Il n'y a pas de trouble, elle, tu sais. Fait que c'est beau de voir ça de ce côté-là. Puis ça nous remet un peu à notre place en tant qu'être humain, de dire, ouais, OK, c'est vrai qu'on a peut-être trop empiété sur la nature, puis peut-être qu'on devrait y laisser un peu de place. Et c'est ce qu'on nous démontre dans ce jeu-là. On dirait une œuvre d'art à certains moments, ce jeu-là. Vraiment très, très joli.
Mais tu me permets-tu un commentaire?
Vas-y, vas-y.
Ben, parce que j'y ai joué, puis sauf que au niveau de l'ambiance, oui, c'est beau, mais c'est tellement beau, c'est tellement prenant que ça crée des moments de tension aussi.
Exact.
Puis il y a des rebondissements, il y a des scènes que vous ne verrez pas venir, mais il y a des scènes où vous allez tellement être dans le jeu qui va arriver, que ce soit un monstre ou un événement inattendu, que vous allez faire le saut.
Oui.
Donc, ça démontre une des qualités du jeu, à savoir que l'ambiance est tellement bonne que vous allez finir par trop embarquer jusqu'au point où vous allez sauter parce que vous êtes trop dans le jeu puis vous avez oublié l'univers réel.
Ouais, de watcher tes arrières ou qu'est-ce qui se passe alentour. Côté implication émotive, ce jeu-là réussit à faire ce que peu de jeux ont été en mesure de me faire. Je l'ai terminé avant-hier, et à la fin, je m'en voulais. Tu sais, j'en veux encore. Ça me tente pas d'avoir fini, là. Je veux continuer, tu sais. Puis, à la fin du jeu, je me posais des questions. Est-ce que, tu sais, le personnage, as-tu pris les bonnes décisions? As-tu fait les bonnes affaires? Qu'est-ce que j'ai vu à tel endroit? Ça te fait réfléchir. Il y a certains personnages non-joueurs que tu vas croiser, qui vont partager ta route un peu. Il arrive des événements traumatisants dans leur vie qui, tu dis, OK, moi, si j'avais été dans cette situation-là, qu'est-ce que j'aurais fait, tu sais? Et c'est là qu'on... Je pense qu'on n'a jamais frôlé la relation jeu vidéo-film. Là. Tu sais, on dit ah, l'un et l'autre sont rendus tellement proches. Je pense qu'on n'a jamais autant frôlé le cinéma qu'avec The Last of Us. Parce que, sans dire qu'est-ce qui se passe à la fin, j'étais dans la dernière salle, on me demande de faire une action et j'avais pas le goût. J'avais le goût là, de sortir de la pièce puis juste comme, OK, bye. Mais t'as pas le choix. Les créateurs du jeu te racontent une histoire. Et c'est eux qui ont le dernier mot. Ils t'ont mené de A jusqu'à la fin en te comptant le périple. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de faire les actions qu'il y avait besoin pour se rendre à ce point-là. Et à la fin, c'est pas toi qui as le dernier mot. C'est eux autres. Et l'implication émotive est telle que je filais mal. J'avais une boule dans l'estomac. OK, j'ai vraiment fait ça. On m'a vraiment obligé de faire ça. À un point que... Même si, écoute, c'est loin d'être sanglant, c'est loin d'être énorme, je me suis dit, tu sais, on chialait après une scène comme No Russian dans Modern Warfare 2, le Call of Duty, où est-ce qu'on arrivait d'un aéroport avec les mitraillettes puis on assassinait des centaines et des centaines de civils, puis le monde disait, ben voyons donc, ça a donc ben pas de bon sens. Ben la scène finale de The Last of Us étant beaucoup moins grandiose, émotivement était tellement plus impliquante que pour moi ça m'a fait plus de mal à l'intérieur, ça m'a plus amené à me poser des questions, cette scène-là, que celle que j'ai vécue dans Call of Duty Modern Warfare 2, dans l'aéroport, dans la mission No Russian, c'est vous dire.
OK.
Ouais.
Daniel, sachant ce que je veux dire, pour ceux qui ont joué le jeu, vous savez aussi ce que je veux dire par là. Pour ceux qui ne l'ont pas joué, ben c'est une belle découverte. Rendez-vous jusque-là, puis vivez-le. Vous viendrez m'en jaser après. Vous viendrez discuter du sens de tout ça, puis comment est-ce que vous êtes senti après.
Puis d'ailleurs, c'est une fin qui a soulevé beaucoup de passion. Hein?
Oui, exactement. Parce que tu te positionnes d'un côté comme de l'autre. Est-ce que tu as fait la bonne affaire? Est-ce que le personnage, dans le fond, fait la bonne affaire? Toi, t'aurais-tu fait ça? Tu sais, chacun a sa vision, mais au final, Naughty Dog te raconte une histoire, et toi, t'as décidé que tu la jouais, cette histoire-là. C'est pas toi qui décides. Puis ça, je trouve ça correct. Puis le fait que j'étais un peu en maudit après moi, d'avoir fait ces actions-là parce qu'on m'amenait à les faire. Je me dis, ils ont réussi quelque chose que peu d'autres ont été en mesure de faire. M'amener à me dire, voyons, JB, pourquoi t'as fait ça? T'aurais pas dû, tu sais. Mais on m'a amené à... Tu sais, l'implication émotive est énorme dans ce jeu-là.
Je te dirais que ça m'a fait un peu... L'histoire... C'est pas le même studio, c'est pas du tout le même genre de jeu, mais The Last of Us, par son implication émotive, m'a beaucoup fait penser au jeu de Quantic Dream, que ce soit Indigo Prophecy, Heavy Rain ou plus récemment Beyond Two Souls, dans le sens que tu te demandes si t'as fait les bonnes choses.
Ouais.
Tu te demandes si t'aurais pas pu faire autrement pour arriver à tes buts. Puis le fait que tu te sentes mal, que tu te sentes triste, joyeux, whatever, peu importe l'émotion, ça prouve la qualité
du titre.
Du jeu. Ben, du titre, mais de tout l'effort scénaristique qui a été mis en place. Puis c'est quand même un exploit. Moi, en tout cas, je trouve ça un exploit d'être capable de te faire ressentir ça à travers un jeu. En tout cas, chapeau aux créateurs de Naughty Dog comme ceux de Quantic Dream. Mais ça m'a fait penser à ça.
Oui. Oh, oui. Puis je suis tout à fait d'accord. Je reviens à la. Oui, Luc.
Mais est-ce que tes choix ont vraiment une incidence sur,
non,
sur la manière.
T'as pas de choix. Non, t'as pas de choix.
Non.
Okay, ce que tu peux faire, c'est décider, mettons, dans un environnement plus ouvert, comment tu vas combattre les ennemis, quelle technique tu utilises pour arriver à tes fins, comment tu vas réussir à survivre. Mais le reste, c'est une histoire qu'on te compte.
OK, tu fait décides... que t'as aucun choix.
Aucun
vraiment.
Choix. Pis c'est correct comme ça. Si ça avait été, côté implication émotive, raté, là. Je m'en fous, OK? Arrête de jaser, puis envoie de l'action, tu sais. Si on avait été là, le fait de ne pas avoir de choix peut-être aurait été négatif. Mais là, dans ce cas-ci, c'est loin d'être négatif, c'est même très positif. Qu'il n'y ait pas 12 fins différentes, qu'il y ait une histoire, c'est cela comme compte. Puis je deal avec, tu sais, si tu vis avec ce qu'on t'a imposé, puis c'est parfait comme ça.
OK, mais quand tu dis tu remets en question les choix faits,
tu remets en question
le choix que ton personnage fait et non pas ce que toi t'as fait dans le jeu.
Oui, c'est ça, mais... Le personnage, ça devient toi dans une certaine mesure. C'est toi qui poses ces gestes-là.
Bon, oui.
Tu sais, j'ai fait le choix de le terminer, le jeu. J'aurais pu laisser la manette là puis faire comme non, moi je. Tu sais, ils m'ont amené à le faire. Et j'ai accepté de le faire. Est-ce que j'en suis d'accord? Ben, ça, c'est à chacun sa vision de l'histoire.
Autrement dit, tu vas avoir plus d'émotions qu'en sauvant une princesse avec un plombier.
Probablement.
C'est ça.
À moins que tu t'associes réellement à un gars qui a une casquette rouge puis une salopette qui saute sur des fleurs, qui lance des boules de feu. Ça se peut que tu t'associes vraiment émotivement à ce personnage-là. Ça se peut.
Ben, moi, j'ai essayé, puis
la police n'a pas aimé ça.
Elle s'est
débarquée
chez nous.
Ouais.
Non, pas vraiment.
Mais quand tu commences à te sortir dans la rue puis kicker des poubelles puis sauter sur la tête du monde pour voir si ça va te donner des scènes.
T'essayes de descendre des tuyaux, là. Hein? Ordinaire.
Ouais, c'est ça.
Autre truc intéressant là, dans les points positifs, le grandiose de la caisse.
J'ai croisé des champignons à l'épicerie.
Ça, c'est avec le petit jet qui pitche de l'eau là, pour garder tous les légumes frais. Là.
Tout à fait.
Ouais. Autre truc bien intéressant dans ce jeu-là, c'est le côté grandiose de la quête. On devient à un certain moment comme dépassé par les événements. L'univers est plus grand que soi. Malgré que c'est un corridor, puis on sait très bien, quand on se détache là, du jeu, que finalement, tu peux pas aller si loin que ça. Là. Tu peux pas te dépasser les limites du corridor. C'est très limité ce qu'on t'offre comme possibilité de déplacement. Malgré tout, on a l'impression d'être dans un univers qui est grandiose, qui est très, très grand et qui est vivant. Il se passe des affaires alentour de toi. Tu as cette impression-là, même si l'endroit où est-ce que tu peux te rendre, même si les liens où est-ce que tu peux te rendre seront très, très limités. Par contre, c'est grandiose, mais pas tant que ça, dans le sens que dans un Tomb Raider, on avait du over the top. T'sais, à un moment donné, là, elle survivait à tout, une lance à telle place, elle réussit à s'accrocher, et tout le temps, c'était over the top. Elle était capable de tout faire ce qu'elle voulait et de survivre. Là, on a du grandiose, mais pas au même niveau. On est dans des événements qui semblent nous dépasser, mais on n'est pas surhumain tout d'un coup, malgré les belles choses qu'on nous amène à faire. Autre truc intéressant, variété d'ennemis. façon de les aborder, que ce soit des infectés ou encore des humains, ils vont pas procéder de la même façon, comme si chacun des ennemis avait un peu sa personnalité. Surtout chez les humains, il y en a qui vont être plus craintifs, d'autres plus fonceurs, et on va devoir gérer tout ça. Et la gestion du bruit. Notre personnage principal, Joël, qu'on incarne, a la capacité d'entendre, ce qui est une capacité assez commune, mais dans le sens que on va pouvoir se pencher puis de voir au loin, à travers les murs, un petit peu qu'est-ce que les ennemis, où est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils se déplacent, les propos qu'ils font, comme si le gars il se concentrait pour capter le son puis pouvoir se diriger. Il va falloir utiliser cette capacité-là spéciale entre guillemets. C'est pas exagéré. Mais c'est, tu sais, on s'entend que c'est un petit peu plus que la moyenne humaine, là. On va falloir utiliser ça à notre avantage pour essayer de prendre les ennemis à revers, parce que si on rentre dans le tas, oubliez ça, on n'a pas beaucoup de munitions, nos armes sont très très fragiles. Après 3-4 coups, dépendamment des trucs qu'on utilise, couteau, hache ou des choses comme ça, ça va se briser. C'est pas c'est pas fait top notch, là. Fait qu'il faut être très prudent, faut maximiser notre équipement. L'histoire, comme je vous dis, l'implication émotive, l'histoire est vraiment géniale. Et la fin, c'est un jeu qui mérite d'être vécu parce que l'histoire qu'on raconte, elle est belle, elle est laide à certains moments, elle est tout plein de choses, mais elle est surtout humaine. C'est une belle histoire d'humanité à travers cette histoire-là complètement débile d'invasion de zombies qui détruit complètement la civilisation normale, qui bouleverse tout ce qui arrive dans l'univers. Mais après tout, il reste quand même des humains, puis il arrive des belles choses entre ceux-ci. Dans les trucs plus négatifs, je viens de vous parler de Joël, qui est capable d'entendre. Il y a des cliqueurs qui font des clic-clic-clic-clic, tu sais, qui vont essayer de prendre le son pour se diriger. Et donc, vous attaquez. Si vous faites du bruit, ils vous sautent dessus. Les humains aussi, s'ils vous entendent, ils vont courir après vous autres, ils vont venir vous attaquer. Donc, on essaie de faire le moins de bruit possible. Joël, super silencieux. Ellie, elle court partout. Ça, c'est une des remarques que, entre autres, Denis Talbot...
Avec ses souliers à claquettes.
Avec ses souliers à claquettes. Comme si, toi, ton personnage, tout était aimanté vers toi. Donc, tu dois faire extrêmement attention. Mais elle, elle court partout, puis elle se déplace. Tu sais, t'as juste le goût de dire, reste là, bouge plus, attends que j'aille finir, tu sais. Elle court partout. Puis là, tu fais comme... Au début, tu te dis, ben voyons non, elle va nous faire tuer. Elle va nous faire tuer. Jusqu'à ce que tu réalises que les ennemis, ils apprennent pas en compte. C'est plate, là. Ça nous sort un peu du jeu, parce que t'es tout le temps en train de te dire, ben voyons donc, c'est donc ben pas réaliste. Tu sais, mon action, moi, par rapport aux ennemis, est hyper réaliste. Mais elle, c'est elle n'existe pas. C'est un fantôme, elle fait pas de bruit. Et pourtant, tu te concentres, t'écoutes les bruits. Puis elle, ça fait des grosses ondes de choc, là. Comme ça, en faisant énormément du bruit. Fait que là, tu fais comme, ben voyons donc, reste dans ton coin.
Elle se promène avec une grosse pancarte en néon sous la tête.
Je suis là.
Kill me.
Là. Ouais, c'est ça.
Kill me, please. Puis les zombies la regardent, ils disent, pfff. T'es pas importante, toi.
Ouais, et
excuse pas les zombies, les infectés.
Ouais, c'est ça, c'est pas des zombies. Sinon, les armes à feu, la visée, c'est limite, là. Ça vise tout croche. On s'entend qu'on nous dit, oui, mais c'est des armes de fortune, puis tu sais, c'est pas le meilleur équipement, blablabla. Bon. OK, là, mettons que je veux l'acheter, là. Le gars, il doit toujours apprendre à viser un peu, là, depuis le temps, là. Maintenant, là, c'est parce que, tu sais, il y a une différence entre tirer, genre, la tête, puis la balle arrive au pied, là. C'est un peu tout croche de ce côté-là. Et en plus, comme c'est un système de visée sur manette et non pas clavier-souris, la précision est loin d'être au rendez-vous. Donc, on va finir par privilégier, au lieu de prendre un pistolet, on va souvent privilégier le 12. Tant qu'à rentrer dans le tas, là, tant qu'à être dans marde, là, dans le sens de... parce que quand ça fait du bruit, ça attire les ennemis. Tant qu'à arriver là, là, au point de... OK, bon, ben écoute, il y aura plus d'ennemis, mais je vais gonner, là, parce que j'ai pas le choix. Tu prends un 12. Tu prends ce genre d'armes-là qui vont faire des dommages à courte portée. T'attends que les ennemis soient proches, puis tu envoies dans le tas. Parce que sinon, tout ce qui est à longue distance, c'est très ordinaire. Il y a des arcs qui, eux aussi, c'est un petit peu plus précis, mais c'est plus long à recharger que les armes à feu. On va avoir moins de munitions, c'est un peu normal. À part ça, puis tu sais, l'avantage, c'est que ça tire en faisant pas de bruit, là, donc ça, c'est un plus, là. Donc, arc, tout ce qui est au corps à corps, c'est à privilégier. Puis pour les armes, avec un 12. Allez-y, tu sais, tant qu'à rentrer dans le tas, allez-y à courte portée, parce que tout ce qui est à longue distance, les armements, c'est très ordinaire. L'histoire, ben, c'est linéaire, bien sûr, là, c'est un corridor, mais c'est correct, on joue le jeu. Par contre, moi, l'ayant joué en très, très peu de temps, à un moment donné, je me disais, bon, ben, c'est un soap. On arrive à telle place, on était censé être là, puis ça soit à la fin. Non, finalement, ils sont plus là. Oh, fallait à telle place. Tu sais, le nombre de rebondissements, peut-être que, puis c'est probablement ma faute, là, si je l'avais joué sur 3 semaines, je l'aurais moins senti. Mais là, en dedans de 3 jours, je vais être comme, bon, OK, c'est toujours, on recule pour créer du temps de jeu de façon un peu artificielle. C'est correct, je tu sais, à un moment donné, il faut que le titre vaille la peine. L'histoire, c'est quand même une quinzaine d'heures là, facile de jeu qu'on nous offre sans trop fouiller. Là. Il y a quand même des trucs à chercher dans les différents niveaux. Mais tu sais, j'ai trouvé que peut-être qu'on aurait dû rallonger les séquences entre les différents environnements, entre les différents points où est-ce qu'on doit se rendre, au lieu de créer différents points, là, tu sais, un nombre aussi grand de points. Par contre, de l'autre côté, l'avantage, c'est que ça nous amène à visiter des lieux qui sont différents et donc des décors qui sont différents. C'est comme un plus, c'est un moins. Je mettrais ça dans la colonne du neutre, cette notion-là. Puis un peu là, du fait que j'ai joué en très, très peu de temps. Sinon, ben, une des affaires, ça je l'avais mentionné aussi dans Tomb Raider, c'est le deuxième parallèle que je vais faire dans le jeu. On a des munitions, on est sans froid, on est capable d'affronter les ennemis, on est stratégique. On arrive dans les cinématiques, puis les personnages sont tellement moins forts que dans le jeu, que dans les parties in-game. Cette dichotomie-là, là, cette différence-là, réglez ça, les développeurs de jeu. Là. Arrêtez de nous faire des personnages qui sont surpuissants dans le jeu, puis que sont donc bien fragiles quand t'arrives dans les cinématiques. Ça casse l'histoire, dans le fond. C'est que ça fait une différence entre quand t'es en train de jouer et quand t'es dans la cinématique. Ça casse un petit peu où est-ce que t'es rendu, tu sais, dans le développement de ton personnage. Essayez d'égaliser ça un petit peu. Là, c'est encore le cas. C'est moins flagrant que dans Tomb Raider, parce que dans Tomb Raider, écoute, on avait des capacités. Envoyer des tyroliennes à l'envers, puis on fait des one-shots, puis du monde avec de la magie. Puis t'arrivais dans les cinématiques, puis pas capable de tirer 2 balles de fusil de suite, là, tu sais, puis comme de viser comme du monde. T'sais, là, c'est un peu moins grand, mais ça arrive encore. Des situations où est-ce que il y a 4 secondes en train de faire de quoi de super héroïque, sauver quelqu'un, puis t'sais, tuer 3-4 zombies, puis là, t'arrives, t'es dans la cinématique, t'en as un qui se promène, t'as la chienne. T'es un peu plate, tu sais. Mais bon, là, ça pouvait pas être parfait comme jeu. C'est pas loin de l'être. Je comprends parfaitement le fait qu'il y a eu une pénurie. Les gens ont sauté là-dessus et ont voulu y jouer en masse quand c'est sorti. C'est une excellente réussite de Naughty Dog. Ça leur a permis de gagner le titre de studio de l'année au VGA, là, du côté de Spike TV, le gala des prix du jeu vidéo. Même s'ils n'ont pas gagné jeu de l'année avec leur jeu. Ça, c'est un peu ordinaire. Là.
T'avais-tu lu mon article?
Oui, 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 c'est pour ça que j'en fais référence, Daniel.
Je la comprends pas.
C'est à ne pas comprendre. Oui, c'est ça, exactement. C'est à ne rien comprendre. Et donc, pour y aller d'une autre.
Une autre?
Oui, c'est notre note.
Ah, OK.
Je vais y aller avec un 9 sur 10. Ça vaut réellement la peine d'être joué. Si vous avez une PlayStation 3, parce que c'est une exclusivité, il y a un DLC qui s'en vient très, très bientôt, qui est comme un prequel, là, qui raconte l'histoire avant que Ellie et Joël se rencontrent, comment est-ce que Ellie s'est fait infecter. Si vous avez l'occasion, si vous avez la chance, à la limite, louez-le. Donnez-vous le goût d'aller l'acheter. Moi, c'est clair que je vais y aller. Là, je vais me le procurer. Et ça vaut extrêmement la peine de se procurer ce jeu-là, d'y jouer. C'est une belle expérience.
Ouais. Je sais pas, j'ai juste t'en parle, puis l'histoire m'a vraiment pensé à le jeu Walking Dead qui était épisodique, où on essaye d'amener une fille à une telle place, puis là, nous autres, c'est notre personnage qui se fait mordre, puis là, il y a un certain temps, puis tu le quittes. Je sais pas. Je trouve que c'est sûrement super intéressant un coup tu le joues, mais on dirait qu'on a vraiment calqué sur l'histoire de Walking Dead, mais en plus gros, mettons, en faisant ça à une échelle beaucoup plus grosse. Là.
Ouais, non, c'est y a clairement des ressemblances, mais c'est pas le même type de jeu. Donc, peut-être côté histoire, j'ai pas joué de Walking Dead en passant.
Okay, parce que Walking Dead, tes choix ont vraiment...
Ouais, c'est ça, on mise beaucoup sur les choix.
Une bonne incidence sur l'histoire, puis des choses comme ça, puis même sur le jeu qui est sorti hier, là, la deuxième partie qui est sortie hier. Mais bon, tu dis dans Last of Us, c'est qu'on te compte une histoire, puis peu importe ce que tu fais, ça change rien au bout de la ligne. Mais
c'est ça, c'est pas la même orientation. Non. C'est pas le même type de jeu non plus. Oui, les histoires peuvent se ressembler, pis c'est correct, là, les zombies sont à mode de ce temps-là, on s'entend là-dessus. C'est plus facile de tuer des zombies que des nazis de ce temps-là. Fait que c'est pour ça qu'on a ces ennemis-là. C'est des faceless enemies, comme on dit.
Ouais, c'est ça.
Fait que tu sais, oui, les franchises peuvent se ressembler, sauf que le résultat, quand tu y joues, c'est vraiment pas le même type de jeu, là. Vraiment, mais vraiment pas, là.
Ouais. Non, j'ai aucune peur que c'est un excellent
non,
jeu.
Non, c'est ça.
Même si les parallèles d'histoire sont facilement traçables.
Mais Last of Us, c'est pas un jeu d'aventure. Là. C'est pas comme The Walking Dead. Là. The Walking Dead, c'est un jeu d'aventure. Il y a quelques séquences.
C'est un point and click, là.
Ouais, c'est ça.
Dans
c'est
The
ça.
Last of Us, c'est. Ben. Ouais, c'est ça, tu sais, tandis que The Last of Us, c'est plus un jeu d'action, aventure, survival horror, tu sais, mais oubliez ça, là, il y a pas de choix à faire qui vont déterminer le. Tu sais, il y a pas plusieurs fins là, dans le jeu, là. Fait que c'est deux genres complètement différents.
C'est à jouer, autant l'un que l'autre, c'est une belle façon de visiter le mythe du zombie.
Oh, comment ça, mythe?
Ben, ouais. La future réalité de... Peut-être un jour?
Hey, je suis président du unit de Saint-Zotique. Va pas commencer à dire au monde que les zombies n'existent pas. On parle de ma job.
Ouais, c'est ça, exactement. L'entraînement va bien, by the way, Saint-Zotique.
L'entraînement va super bien. Sort plein de jeux, c'est un site pour qu'on puisse s'entraîner.
Ouais, c'est ça. Donc, un 9 sur 10, ça vaut vraiment le détour. Jouer à ça, c'est un classique. Je pense que ce jeu-là, à travers les années, va très, très bien vieillir. Si on a des suites, si on a une mythologie qui se construit alentour de cette histoire-là, de la part du même studio, Naughty Dog, c'est des histoires de... C'est Nathan Drake, c'est un studio qui fait des belles histoires, qui est capable de bien raconter des histoires. Et encore une fois, ils ont été en mesure de nous le prouver cette fois-ci.
Mais c'est pas parti pour être une franchise.
Non, hein? Puis c'est correct non. Aussi, s'ils décident d'y aller de même, de pas diluer le produit, c'est correct, je vais vivre avec. Et ou encore qu'ils reprennent les mêmes mécaniques, mais qu'ils nous racontent une histoire, probablement, peut-être d'un autre endroit aux États-Unis, d'un truc complètement différent, qu'on fasse pas de suite à cette histoire-là, ça serait correct aussi. Je vivrais très bien avec ça.
Mais Naughty Dog avait vraiment dit que The Last of Us, parce qu'il y en a qui ont réclamé une suite ou un spin-off ou whatever, parce que la fin, bon, ça finit, puis en tout cas, comme tu dis, vous allez être sur vos émotions, mais il y en a qui ont réclamé ça, puis Naughty Dog avait dit non, on pense avoir compté ce qu'on avait à compter.
C'est
dans
correct.
The Last of Us.
Si c'est l'intention. À un moment donné, on dit que le cash finit par parler. Ils sont capables de créer des nouvelles franchises. Ils l'ont fait avec The Last of Us. C'est une nouvelle franchise. Puis ouais. Ils sont arrivés, tu sais. Ils ont fait de l'argent avec. Ben, s'ils veulent repartir avec d'autres choses, moi, je suis correct avec ça. Moi, je vis très bien avec cette notion-là que c'était une histoire qui se contenait en elle-même. Puis c'est tout, tu sais. Je vis avec ça parfaitement. Puis si éventuellement, ben, ils décident d'en faire une suite, ben, je serais content. Mais je suis pas le genre que je vais aller mettre de la pression. C'est correct. D'un cas comme dans l'autre, c'est correct pour moi.
Ils vont bien nous sortir un autre Crash Bandicoot à un moment donné,
ah,
hein, sur la nouvelle PS4.
Hein. Peut-être.
C'est eux autres qui sont en arrière de ça aussi. J'ai bien aimé ça, Crash Bandicoot. Les premiers, c'était le fun sur la première PlayStation.
Ça a un peu mal vieilli, mais en tout cas, ça c'est le lot des plateformeurs en 3D. Hein.
Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de princesse à aller sauver.
C'est probablement ça, oui. Les garnements. Comment on vous retrouve sur le web? Luc, on y va avec toi.
Sur Twitter, @Calazormo. Je suis extrêmement tranquille sur Twitter dernièrement. Mais ça ne veut pas dire que je ne vérifie pas de temps en temps. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire là. Puis on prépare un spécial sur le Salon de l'Auto là, pour le podcast Auto. Mais ça sera probablement seulement qu'un spécial pour le Salon de l'Auto de Montréal. Mais on verra ce que ça va donner. Sinon, il y a le cjuap.com pour voir tous les anciens défunts podcasts que j'ai fait auparavant.
Daniel?
Oui, sur Twitter, à Draco ADG. D'ailleurs, ADG veut dire affaires de gars, et qui dit affaires de gars dit va donc sur affairesdegars.com lire mes articles, notamment celui sur les morts inusitées causées par des jeux vidéo. Un article très populaire sur le site que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, mais sinon il y en a plein d'autres aussi. J'écris régulièrement. Et toi, Jean-Benoît?
Je gère le compte officiel de la réalité augmentée sur Twitter, @realitéaug. Il y a mon compte personnel, @gangj_b. Sinon, bien entendu, on a une page Facebook qui est de plus en plus populaire. On met du matériel là-dessus. Discussion avec nous, ça peut passer par là. C'est possible. facebook.com/realitéaug. Sinon, petite barre de recherche, vous allez nous trouver, il n'y a pas de problème. On est diffusé sur les ondes de Passion FM, bien entendu, les jeudis à 21h. Sinon, sur le web, affairesdegars.com, on est là-dessus. La zone technoculturelle.ca. Et il y a d'autres projets qui s'en viennent là, pour l'année 2014. La réalité augmentée n'a pas terminé son expansion et sa future domination du web. On est comme les zombies. On infecte tranquillement pas vite le web et ça se propage à une vitesse pas nécessairement vite, là, mais constante.
Une vitesse pas pire.
Vitesse pas pire.
C'est ça.
Vous n'avez pas fini avec nous autres, gang. Et voilà, donc.
Malheureusement pour vous.
Ouais, malheureusement ou heureusement, selon si vous aimez ou pas l'émission. On espère que vous aimez. Dans le fond, on le fait pour ça. Et on a toujours notre adresse courriel, toujours aussi simple et facile d'accès. Podcast réalité augmentée, pas d'accent, pas de point, pas d'espace, @gmail.com. Si vous avez des commentaires, vous avez des suggestions de jeux que vous aimeriez qu'on traverse pour vous en parler, des demandes spéciales, le goût de jaser, vous avez une peine d'amour, vous avez besoin d'aide, venez nous écrire. Peu importe, on est là pour vous autres.
Tu sais, t'es vraiment désespéré de recevoir des emails, toi.
on a besoin d'affection.
Jean-Benoît, Dr. Lover gagné.
Yes, exactement.
Envoyez-y n'importe quoi, des emails qui parlent de peu importe. Je vais garder les détails pour moi.
Il y a juste les enlarge my zone
ça,
importante.
C'est ça, j'allais dire. Envoyez-y n'importe quoi, même des enlarge your patente.
Enlarge my member.
Ouais, exactement. My membership.
Ouais.
Donc voilà pour l'émission de cette semaine. Merci beaucoup Daniel et Luc d'avoir été là encore une fois, de ne pas me laisser parler tout seul dans le vide. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été du rendez-vous. On se dit à une prochaine fois. Prochain épisode qui sera Luc, on avait décidé quand là? Début janvier, hein?
Ouais, on va mettre ça probablement après le jour de l'an, donc dans la semaine. Nous autres, on est habitués de travailler pour les mercredis et jeudis.
Probablement le 9.
Dans la semaine du 5 janvier, dans la semaine du 6 janvier, le lundi. Dans cette semaine-là, on va mettre le show en ligne, puis ça va passer à la radio, j'imagine, le 9. Ouais. Ça sera notre 50e qu'on a fait face à face. Donc, si vous voyez, si vous écoutez, puis on semble déstabilisé, surtout moi et Daniel, là, c'est parce qu'on regardait JB et on ne pouvait pas croire que c'est notre leader. Mais bon.
Si petit, mais avec tant de prestance.
Ah, tellement.
Moi, je te cherchais, hein, JB.
En dessous de la table.
Je regardais
hein?
À ma hauteur et
il voyait rien.
Je voyais l'horizon.
À un moment donné, tu t'es cogné le genou, c'était ma face.
plutôt le pied.
OK, bon, ceci étant dit, merci d'avoir été des nôtres. On se dit à une prochaine fois et bon temps des fêtes et bonne année 2014 à vous tous et à vous toutes qui êtes de l'aventure de la réalité augmentée.
Soyez prudents.
Oui, soyez prudents sur les routes et on vous dit à une prochaine fois. Salut tout le monde!
Bye!
Bye!